Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Au lit ou sur un coin de table dans la cuisine, sucré ou salé, croissant ou baguette beurrée, café clope, cornflakes et jus d'orange, brioche et confiture, jambon fromage de chèvre, thé, café ou chocolat, seul ou à plusieurs, à chacun son petit déjeuner. Un repas aux origines aristocratiques, vous le verrez, devenu le symbole d'une certaine forme de mondialisation alimentaire. Comment est né ce premier repas matinal? Est-il vraiment le plus important de la journée, comme le veut une idée répandue? Ne pas petit déjeuner, est-ce vraiment mettre en péril sa santé? Vaut-il mieux privilégier un petit déjeuner sucré ou salé? Pourquoi les céréales du petit déjeuner ont-elles supplanté chez les plus jeunes le chocolat chaud et la tartine beurrée? À quoi ressemblent certains petits déjeuners ailleurs dans le monde? Le petit déjeuner, un sujet a priori banal, mais qui en dit plus long qu'on ne le croit. Pour nous éclairer, le docteur Laurent Chevalier, le géohistorien Christian Grataloup, l'écrivain Thierry Bourcy et la journaliste Nathalie Hélal. Mon complice du jour, c'est Thibaut de Saint-Maurice. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébi.
Je voudrais un petit déjeuner.
Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus.
C'est ce monsieur le directeur?
Oui, c'est lui.
Est-ce que je pourrais lui parler?
Oui. Rick, il y a un client qui aimerait te parler.
À votre service?
Voilà, je voudrais un petit déjeuner.
Nous ne servons plus le petit déjeuner.
Je sais que vous ne servez plus le petit déjeuner, Rick. Sheila vient de me dire que vous ne serviez plus le petit déjeuner, mais... j'ai juste envie d'un petit déjeuner. Rick, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre l'expression « le client est roi »?
Oui.
Ben voilà. Le client, c'est moi. Vous l'avez devant vous. Je veux un petit déjeuner.
Et oui, certains peuvent devenir très méchants s'ils n'ont pas pris leur petit déjeuner. C'était le cas là dans Chute libre de Joël Schumacher. Autour de la table, Christian Grataloup, géographe spécialiste en géohistoire. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage passionnant, Le monde dans nos tasses, 3 siècles de petit déjeuner. Christian Grataloup, pourquoi cet intérêt pour le petit déjeuner? Un sujet a priori banal et insignifiant. Peu d'historiens, de géographes ou de sociologues se sont intéressés à ce repas matinal. Mais c'est un repas à la fois familier et méconnu. Christian Grataloup.
Ah oui, tout à fait méconnu. Pendant longtemps, on ne s'est absolument pas intéressé au petit déjeuner sur le plan historique. Quand on fait un livre sur la gastronomie ou sur l'alimentation en général, on s'intéresse au repas du midi et du soir, mais pas du petit déjeuner qui est souvent très fréquent, un repas pour lequel on ne se pose pas la question « qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?». Or, c'est un repas original qui ne s'appelle « petit » que depuis le 19e siècle et qui n'existe avec la question « thé, café ou chocolat » que depuis le début du 18e siècle. Et comme vous l'avez dit en introduction, au départ, uniquement pour les catégories sociales les plus aisées. Donc, le petit déjeuner, c'est aussi quelque chose qui est mondial. D'abord, bien sûr, on pense aujourd'hui, parce qu'il a été mondialisé dans tous les hôtels du monde comme petit déjeuner international, mais au départ... parce que le thé d'origine chinoise, le sucre d'origine indienne, le café d'origine africaine et arabe, et le chocolat qui est américain, font une combinaison que les Européens vont faire pour eux-mêmes d'abord, puis diffuser, dans les populations européennes au départ, mais aussi dans les populations mondiales. Donc il est doublement mondial dans sa constitution et puis dans sa diffusion.
Thierry Bourcy. Allez-y,
oui,
allez-y.
Oui, je voulais dire que l'origine des plantes est particulièrement intéressante parce que ce sont des plantes qui viennent de 3 continents au minimum, hein, si on fait bien les comptes, pour les Européens eux-mêmes, parce que ça correspond à une consommation de dopants avec du sucre, donc quelque chose qui stimule le matin et qui, évidemment, s'est adapté à ce rythme de vie, qui est le nôtre, comme votre collègue disait, avec la consommation de café qu'elle faisait le matin.
Thierry Bourcy, vous êtes donc écrivain, scénariste, raconteur d'histoire, vous êtes l'auteur d'un petit éloge du petit déjeuner. Pourquoi cet éloge du petit déjeuner? Le petit déjeuner vous met en joie?
Oui, j'ai remarqué que c'est un sujet, quand j'ai travaillé, qui éveille le sourire. Toujours qu'on dit, quand on parle petit déjeuner, les gens sont contents. L'origine de ce livre, c'est ma curiosité. J'étais un jour à un salon, parce que j'ai écrit des polars historiques sur la guerre de 14. J'étais à un salon à Gradignan et j'étais au petit déjeuner à l'hôtel avec les directeurs de collection de Gallimard. Et donc, je leur demande, et toi, tu fais quoi? Alors, il y en a un qui me dit, moi, je fais la science-fiction, moi, je fais ci. Et puis, il y en a un qui me dit, moi, je fais folio 2 euros. Je dis, c'est quoi folio 2 euros? Alors, il me dit, on fait des textes classiques et on fait des petits éloges. Alors, moi, évidemment, je vois le petit déjeuner, je dis, y a qu'à faire un petit éloge du petit déjeuner, mais je dis ça en rigolant. Et 2 jours après, j'avais un mail du directeur de collection me disant, monsieur, je trouve que c'est une excellente idée. Alors voilà, alors je me voilà donc pris à mon propre piège et je commence à. J'avais écrit que des polars, alors j'envoie 30 pages de souvenirs. Il me dit oh bah c'est épatant, continue comme ça et tout. Il m'a laissé très tranquille et j'ai fait un livre qui part un peu dans tous les sens, mais qui m'a bien amusé.
Et l'un de vos premiers souvenirs de petit déjeuner, c'est votre père qui vous prépare un chocolat chaud qu'il faisait recuire dans une petite casserole.
Oui, oui. Alors ma mère était sage-femme, donc elle travaillait beaucoup la nuit, donc souvent elle dormait le matin. Et donc c'est mon père qui nous préparait le petit déjeuner. Et il, pour donner plus de goût au cacao, effectivement, qui était du banania à l'époque, hein, il le faisait recuire et ça donnait une espèce d'onctuosité et qui m'est restée vraiment en mémoire.
Nathalie Hellal, journaliste gastronomique, auteure de « Même les légumes ont un sexe », peu de littérature gourmande hein, consacrée au petit déjeuner, réputée à tort ou à raison comme le repas le plus important de la journée. Très peu de livres de cuisine, de littérature culinaire sur le petit déj.
C'est vrai, il est un petit peu oublié. Enfin, il y a quelques éclosions de livres comme de ci, de là, depuis quelques temps. C'est vrai parce qu'il revient justement en force depuis à peu près 5 ans. C'est un segment qui se développe, notamment parce qu'il y a beaucoup d'ouvertures de coffee shops sur le territoire français. Et puis que le consommateur français est à la fois plus pressé et plus nomade et qu'il a envie de venir prendre son petit déjeuner à l'extérieur, ce qui est relativement nouveau.
Laurent Guez, vous dirigez la rédaction du Parisien Week-end. Quel est votre petit déjeuner, Madeleine de Proust, vous qui êtes par ailleurs chroniqueur gastronomique et grand épicurien?
Ah ben quand je fouille dans mes souvenirs, Ali, je me souviens d'être réveillé par l'odeur du pain qui grille. À l'époque, d'ailleurs, pas dans un grille-pain, pourtant j'ai pas 100 ans, hein, mais ma grand-mère mettait une petite plaque, genre de fer blanc, sur le gaz, et elle coupait des tranches de pain, et parfois je me réveillais par cette odeur. Vous avez dit que je suis épicurien, alors je sais pas si à l'époque j'aurais dit ce mot-là, mais en tout cas, ça me mettait en joie cette odeur de pain grillé qui allait être ensuite un petit peu garnie.
Nathalie Hellal, votre petit déjeuner, le petit déjeuner qui vous fait retomber en enfant?
J'ai eu la chance d'être extrêmement bien élevée et nourrie par une grand-mère qui me préparait de la brioche. Et quand il restait de cette brioche après le goûter, je la retrouvais au petit déjeuner avec des confitures maison. Et j'ai toujours ce réflexe pour, de temps en temps, pour mes enfants, quand j'ai vraiment le temps de me poser, faire une brioche pour la retrouver. Ce moment de gourmandise du petit déjeuner, de la brioche chaude, réchauffée avec cette confiture maison.
Arrêtez, vous me donnez faim là. Christian Grataloup, votre petit déjeuner, Madeleine de Proust.
Oh, c'était très banal, hein, ce que prenaient les enfants, chocolat, tartines, confiture maison, par ma grand-mère, mais surtout c'était un bruit et une odeur, celui du moulin à café, qui est un objet qui date du XVIIIe siècle, et parce que le café ne pouvait être moulu qu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'on invente le café sous vide. Je précise au passage d'ailleurs que le grille-pain est séculaire, il a été inventé au début du XXe siècle, quand on a su faire un alliage qui pouvait transmettre la chaleur sans disparaître, sans que le fer, ça ne marchait pas, il a fallu faire un alliage compliqué. Et donc le grille-pain, ça c'est plus vieux qu'on le disait tout à l'heure.
Christian Grataloup, comment est né le petit déjeuner? C'était il y a 3 siècles dans la grande bourgeoisie et l'aristocratie européenne?
Oui, au début du 18e, on a toujours mangé le matin, hein, je précise bien, et on a toujours mangé à peu près la même chose qu'aux autres repas, sauf que ça doit être plus liquide parce qu'on se déshydrate pendant la nuit. Donc c'était plutôt de la soupe, comme dans beaucoup de sociétés. Et c'est resté hein, très longtemps, pas encore au 20e siècle, dans des campagnes. Mais le petit déjeuner, chez les gens qui en avaient les moyens, parce qu'il faut bien se rendre compte que le thé, le café, le chocolat, le sucre, ça venait d'au-delà des mers, ça faisait des milliers de kilomètres, donc c'était très cher. C'est seulement à la fin du 18e siècle qu'il sera accessible cible au bon peuple, parce que là, il y aura une production et une consommation de masse, ce qui veut dire aussi une de traite négrière, pendant tout le 18e. Alors, au début du 18e, même à la fin du 17e, le thé, le café et le chocolat arrivent en Europe à peu près simultanément par des chemins divers. Hein. Le café, qui est le plus récent, la plus récente des 3 boissons, elle est passée par le monde arabe, on l'a connue par l'Empire turc, et ce sont les Italiens, les Vénitiens en particulier, qui ont inventé la consommation du café en Europe et l'établissement, qu'ils ont copié sur les Ottomans, l'établissement qu'on appelle un café. Mais le thé est arrivé de Chine par les compagnies des Indes également au cours du XVIIe siècle et le chocolat était venu d'Amérique à la fin du XVIe, seulement au moment où cette chose que les Espagnols avaient trouvé assez infâme au départ, qui était le cocoalt, ce qui a donné notre chocolat, qui est un mot nahualt, un cocoalt, un mot des Aztèques, qui était une boisson extrêmement amère, lorsqu'ils ont eu l'idée de l'additionner avec le sucre qu'ils avaient eux importé d'Amérique, importé en Amérique plutôt, parce parce que il venait de l'Inde et que le sucre donc additionné au cacao a donné le chocolat. Et là, c'est devenu une passion espagnole. C'est pour ça que les Espagnols prennent toujours, d'ailleurs, chocolaté con churros au petit déjeuner. Enfin, quand ils ont
et d'ailleurs, le petit déjeuner a bien failli s'appeler le chocolat, je crois, en France, puisqu'on disait prendre le chocolat, notamment le chocolat auprès du régent Philippe d'Orléans au XVIIIe siècle. Prendre le chocolat, être admis au chocolat du régent était vraiment un honneur infini et ça a failli s'appeler le chocolat. Donc aujourd'hui, on prend un petit déjeuner, on pourrait dire prendre chocolat.
Bonjour Louisa. Voilà. Bonjour Louisa.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Nantes, bienvenue dans Grand Mal vous fasse.
Merci.
Vous êtes chocolat le matin
Alors plus de Nantes.
Alors.
Exclusivement.
Racontez-moi, Louisa, les yeux dans les yeux, votre rituel de petit déjeuner.
Ah bah, moi, le petit déjeuner, ouais, c'est sacré. C'est ce que je disais en antenne. Je pourrais pas commencer la journée de travail sans mon petit déjeuner. Donc déjà le soir, c'est dresser la table et le matin, c'est les tartines grillées, purée d'amandes ou beurre avec les confitures, le miel. Ça fait même rire mon mari, ce qui me voit préparer mes petits fruits, mes petites confitures. Et le week-end, bah, comme on a plus le temps, bah, ça va être préparer des petites salades de fruits. En fait, ça prend pas longtemps, hein, mais préparer des petites salades de fruits, faire des petits smoothies, c'est
j'ai vraiment envie, un plaisir. Vous savez quoi, Louisa, j'ai envie de petit déjeuner chez vous.
Pardon?
J'ai envie de petit déjeuner chez vous, là, vous savez.
Oui.
Thierry Bourcy.
Oui, ce qui est très, très clair, et ce que j'entends dans ce que c'est le côté ritualisation. Et c'est une chose qui m'a frappé quand j'ai commencé à enquêter un peu sur le petit déjeuner. C'est le rituel, et en fait c'est très très marqué, chacun a un rituel qui souvent commence effectivement le soir. Moi j'ai l'image assez émouvante de ma vieille maman, mon père est décédé il y a quelques mois, mais qui tous les soirs mettait le couvert pour eux deux avec les mêmes tasses et préparait le beurre, bon on est en Bretagne, et puis donc ce côté ritualisant et qui donne, quand on a, j'ai un peu approfondi l'affaire, deux grandes écoles, l'école café et l'école thé.
Nathalie Hélal.
Ce que j'entends dans votre témoignage, Louisa, c'est surtout la notion de partage, de convivialité. Notamment, vous évoquez quelque chose de très très important, qui est un peu la base de tous les petits déjeuners, en tout cas en France, la tartine, le pain, qui est vraiment le symbole de cette convivialité, qui au départ, d'ailleurs, il y a très longtemps, était une miche de pain ronde, et qui ensuite, eh bien, s'est traduit en baguette de forme allongée pour justement être mieux trempé dans un bol de café au lait ou d'autres choses.
C'est pour ça, Laurent Guez.
Moi, j'adore cette idée de convivialité dès le matin, etc. Mais je suis quand même, il me semble que je suis obligé de vous dire que ça diminue quand même. Il me semble que les plus jeunes, voire les ados, sont de plus en plus individualistes. Pardon si j'enfile des perles. Et donc, le moment, là, à partager avec les parents et tout, ils ont tendance à être dans l'évitement, à essayer de se prendre un truc rapidement, voire de l'emmener avec eux. Et je suis pas sûr que ce qu'on adore et dont on parle là soit pas un petit peu en train de diminuer.
On reviendra tout à l'heure sur l'aspect convivial du petit déjeuner. Merci beaucoup, hein, Louisa, pour votre témoignage. Thibaut de Saint-Maurice, votre petit déjeuner Madeleine de Proust, c'est quoi?
Alors, moi, ça me fait amuser quand Laurent Guez parlait du grille-pain en métal sur la gazinière, parce que il y avait ça chez ma grand-mère, je m'en souviens très bien, et c'était effectivement, elle prenait à chaque fois quand je venais chez elle des toutes petites tranches de pain de mie, vraiment hyper douce à manger, hyper agréable. Donc effectivement, c'est cette odeur là qui est géniale. Et puis en fait, c'est surtout un moment où on commence la journée, on a le temps, donc on a effectivement le temps de partager, etc. Et c'est moins formel, en fait, qu'un déjeuner ou un dîner.
Et moi, je me souviens de mon cher grand-père maternel qui me tartinait des tartines avec du beurre. Voilà, c'est tout bête, c'est un peu bête, mais c'est ce souvenir qui me revient là à l'instant. À la préparation de Grand Bien vous fasse, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide d'Isabelle Olivier, à la réalisation Stéphanie Texier, et le temps d'une tartine trempée dans le chocolat, Sylvie Vartan, comme un garçon.
Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections. Faut faire attention, comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis dans tes bras, oh, je ne suis qu'une petite fille. tu n'es plus là. Comme un garçon, moi j'ai ma moto. Comme un garçon, je fais du rodéo. C'est la terreur à 200 à l'heure. Comme un garçon, comme un garçon, j'en ai peur de rien. Comme un garçon, moi j'ai des copains. Et dans la bande, c'est moi qui commande. Comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis avec toi, je ne suis qu'une petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, comme un garçon. Toi, tu n'es pas très attentionné, t'es décontracté. Mais avec toi, je ne suis plus jamais comme un garçon. Je suis une petite fille. Tu fais ce que tu veux de moi. Je suis une toute petite fille. Et c'est beaucoup mieux comme ça.
Sylvie Vartan interprétée comme un garçon.
J'ai fait un rêve merveilleux. J'ai rêvé qu'une femme sublime aux yeux marrons m'apportait mon petit déjeuner au lit.
Grand bien vous fasse.
J'aime me beurrer la biscotte.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse au plaisir du petit déjeuner avec la complicité du Parisien Week-end.
Donc ce matin, j'ai pris un thé au citron, une tartine Nutella et un jus de fruits.
Et moi, je prends des cornflakes avec un peu de sucre, avec un peu de lait. Un joli bol quand même, déjà, pour commencer.
C'est pareil, moi j'ai un bol et puis je le remplis à moitié et après je recommence parce que je l'aime bien chaud.
Pyjama, bien entendu. Ouais. En pyjama, on est plus détendu, c'est normal.
Et je prends ensuite du pain que je beurre soigneusement, je suis normand. Et je prends également des confitures, 3 à 4 tartines moyennes, on va dire. Oui, oui, sérieux.
Fraises, abricots, pêches.
Mauvais exemple, je mange rien le matin.
Ma petite sœur, elle aime bien manger. C'est un ventre sur pâte. Tout. Du chocolat.
Vu que je me douche le soir, moi je le prends habillé. Je m'habille avant, ensuite je le prends.
Personne ne me dérange. C'est mon moment préféré. On est calme, zen, en pyjama, en totale décontracte.
Je suis parti en Sicile et il y avait des petits déjeuners avec y avait 5 muffins géants, des cookies géants.
Et puis un grand bol, mais un grand bol de café, quasiment un demi-litre. Et après ça, je considère que je suis réveillé.
Propos recueillis dans les rues de Paris par Claire Destacan et Isabelle Olivier. Tiens, autour de la table, vous connaissez ce plaisir, le plaisir de prendre un premier petit déjeuner très tôt, de se recoucher et d'en prendre un deuxième. Il paraît que c'est ce que fait l'écrivain Milan Kundera. Vous connaissiez ça, Thibaut de Saint-Maurice ?
Non, mais ça, je suis sûr que vous adorez ça.
Oui, c'est vrai. Se recoucher après. C'est vrai que je me cache derrière la caution Milan Kundera, mais j'aime bien le faire le week-end, c'est vrai. Alors, Christian Grataloup, je rappelle que vous avez publié un ouvrage excellent, Le Monde dans nos tasses, 3 siècles de petit déjeuner. C'est un moment de partage et de plaisir, le petit déjeuner, mais il est souvent pris seul le matin.
Petit déjeuner. C'est un repas qui souvent est seul et je m'étais dans le bouquin d'ailleurs intéressé aussi à l'histoire de la douche parce que c'est des inventions de la seconde moitié du 19e siècle et qui s'emboîtent dans l'emploi du temps d'une famille et qui fait que souvent les gens n'ont pas le temps, sauf le week-end, de prendre leur petit déjeuner en famille. Je reviens un instant puisque je parlais de la fin du 19e siècle, c'est aussi le moment où on invente la tartine. Tout ça est lié à l'histoire de la boulangerie. Comme on le rappelait tout à l'heure, les pains étaient des gros pains ronds qu'on faisait cuire de temps en temps. Enfin, on ne pratiquait pas le pain quotidien acheté chaque jour. C'est avec la grosse urbanisation du 19e siècle en Europe que le boulanger devient le commerce de proximité le plus important. Et au milieu du 19e, les boulangers travaillant toute la nuit posaient des problèmes de gestion, de bruit dans la ville. Et il y a eu un arrêt parisien du préfet Haussmann. Puis ensuite, ça s'est étendu en France, obligeant les boulangers à n'ouvrir, à ne commencer à travailler qu'à 4 heures du matin. Donc ils ont été obligés de cuire des pains beaucoup plus rapides, rapidement, avec donc des pains allongés, ce qui a donné la baguette, qui n'est pas une invention antérieure comme certaines légendes le racontent, et que cette baguette a donné effectivement la tartine. C'est donc comme la viennoiserie, qui est de la seconde moitié du 19e siècle, et parisienne d'invention, et non pas de Vienne et du siège de Vienne, comme on parlera tout à l'heure pour le croissant, je suppose. C'est quelque chose qui s'impose dans les villes européennes et se diffuse ensuite dans la seconde moitié du 19e siècle, au moment où les enfants vont le tremper dans du chocolat. Puisque c'est seulement à ce moment-là que le chocolat devient une boisson d'enfant, ce que n'était pas du tout au 18e siècle.
Thierry Bourcy, revenons sur le petit déjeuner en famille. Que représente le petit déjeuner dans une famille ? Ça révèle quoi d'une famille ?
Ben c'est les familles qui ont la chance de pouvoir prendre le petit déjeuner sont de plus en plus rares parce qu'il y a souvent des décalages horaires. D'abord, il y a une très grande différence entre le petit déjeuner qu'on prend dans la semaine et le petit déjeuner qu'on prend le week-end ou en vacances. Ça, j'ai remarqué. Et c'est même pas la même composition. C'est pas le même timing. Il y a également la différence entre ceux qui s'habillent avant de prendre le petit déjeuner et ceux qui s'habillent après.
Vous êtes de quelle école, vous ?
Alors, moi, par exemple, quand j'ai un rendez-vous important assez tôt, je m'habille avant, parce que si je commence à prendre le petit déjeuner et que je m'habille après, ça peut traîner. Je vais être en retard. Donc, mais par contre, si j'ai du temps, je peux prendre le petit déjeuner tranquillement et m'habiller après.
Thibaut de Saint-Maurice, vous êtes de quelle école?
Moi, plutôt de l'école pyjama, et parce que c'est pour le coup le petit déjeuner le moment où on est en famille. C'est en fait le seul repas familial, puisqu'il y a les décalages horaires se font plutôt le soir.
Pour vous, dans votre famille.
Exactement. Et du coup, c'est un repas pas important parce qu'on est tous autour de la table pour le petit-déj.
Thierry Bourcy, je rappelle que vous avez publié un petit éloge du petit-déjeuner. Alors, pour vous, il est très très difficile de partager le petit-déj avec n'importe qui. Il y a des personnes avec lesquelles vous ne pourriez pas partager ce repas matinal. C'est un repas intime.
Oui, je trouve qu'il y a une vraie intimité parce qu'on sort de... Enfin, moi qui suis un peu rêveur, qui m'intéresse à mes rêves, je suis encore dans cette période de transition entre la nuit et le jour. Et j'aime avoir du silence. J'aime pas être agressé par des conversations qui ne m'intéressent pas, par les images de télévision.
Mange et tais-toi.
Ouais, c'est ça. Alors, c'est assez curieux parce qu'en ce moment, je suis dans une chambre d'hôte et le matin, donc il y a des gens qui changent tous les jours et alors des fois c'est un peu compliqué parce que j'ai aucune intimité et pour moi je suis un petit peu heurté parce que j'aime bien que ce repas soit intime. Effectivement, c'est à la fois le plus rituel et le plus intime des repas.
Alors vous avez à côté de vous le directeur de la rédaction du Parisien Week-end, Laurent Guez, qui est habitué au petit déjeuner de travail. Vous, Thierry Bourcy, vous détestez ça, les petits déjeuners de travail. Ce sont deux mots qui ne vont pas ensemble, petit déjeuner et travail.
Oh, c'est une hérésie.
C'est un oxymore.
Je trouve ça affreux. Alors d'abord, je trouve ça pas bien de la part des entreprises ou des directeurs de convoquer leurs employés à un petit déjeuner de travail, parce que petit déjeuner, pour moi, c'est pas du travail. C'est un moment justement de préparation de la journée. On doit être tranquille. Et puis en plus, mélanger ce moment où on est encore dans les songes et les brumes de la nuit avec les préoccupations souvent assez stressantes de l'organisation d'un travail, je trouve ça pas bien du tout. Non.
Oui, parce que Thierry, peut-être qu'en tant qu'écrivain, vous ne savez pas que l'entreprise peut être un lieu agréable, où on a des gens bienveillants, comme ici, j'imagine, où on peut passer un petit moment comme ça autour d'un croissant sympathique.
Mais on n'a pas eu de croissant, justement. Nathalie est là. C'est ça le problème.
Alors, Christian Grataloup, le titre de votre livre, c'est donc Le Monde dans nos tasses. La carte du petit déjeuner, c'est une carte mondiale. C'est un repas symbolique de la mondialisation de l'alimentation. On l'a dit tout à l'heure, le petit déjeuner est organisé bien souvent, le petit déjeuner traditionnel, autour de trois boissons fondamentales, le thé, le café et le chocolat.
Oui, et remarquez que ces trois boissons sont originaires de plantes, ainsi que d'ailleurs pendant longtemps la canne à sucre, avant qu'elle soit concurrencée par la betterave, trois plantes qui sont strictement tropicales, et qui a été inventée par une société, enfin l'Europe, qui, elle, est en zone tempérée. Excusez-moi de ces considérations de géographe, mais pour vous dire que c'est la naissance pratiquement du monde nord-sud. Et que le petit déjeuner est strictement lié, là je suis désolé, ça va le rendre un peu plus amer, par la traite négrière, par la plantation esclavagiste, qui est à la base de l'histoire des produits qui ont fourni le petit déjeuner. C'est pourquoi le développement du petit déjeuner en Europe au 18e et l'explosion de la traite négrière et des plantations, c'est tout à fait interrelié dans le processus historique. Ça ne nous empêchera pas de savourer notre petit déjeuner aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a ce douloureux passé.
Nathalie Hélal, journaliste gastronomique.
Il y a une autre boisson, à mon sens, qui est très importante au niveau du petit déjeuner, et historiquement importante, c'est la chicorée. La chicorée qui fait partie de la même famille que les endives et qui est reconnue depuis toujours pour des vertus médicinales, à la fois digestives, dépuratives, détoxifiantes. Et jusqu'au XVIe siècle d'ailleurs, la chicorée était d'ailleurs exclusivement produite pour ça, pour cette raison médicale. Et la chicorée dans l'histoire est très importante parce qu'elle a servi d'ersatz au café. Et encore aujourd'hui, dans le Nord, dans l'ex-bassin minier du Nord, on retrouve cette implantation massive de la chicorée. C'est là qu'elle est produite, hein, encore une fois. C'est quelque chose de très important, de très savoureux, il faut connaître. Il y a un petit goût de noisette grillée, torréfiée. Ça intervient également dans la composition de nombreuses recettes chez des grands chefs. C'était quelque chose d'important.
Bonjour madame.
Bonjour.
Asseyez-vous. C'est du caramel ?
Et de la chicorée. On rajoute toujours de la chicorée dans le café.
De la quoi ?
De la chicorée. Goûteau avant de dire du mal. C'est pas bon, chez ça ?
Si, c'est très bon. Qu'est-ce que vous mettez sur le pain que vous trempez, là ?
Ah, ça ? C'est du maroilles.
Du maroilles ? Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est un fromage que je fais un petit peu fort.
Vous voulez goûter ?
Non.
Vous avez tort. Je suis moins fort dans le bouc que l'odeur.
C'est bon, hein?
Ah, c'est aussi fort une fois à l'intérieur.
C'est pour ça qu'on le trempe dans le café.
Ça adoucit. Ah oui, trempe? Non, ça ne sert pas.
Allez.
Nathalie Hélal, ça c'est pour vous, vous êtes une ch'tie, vous trempez votre tartine de maroilles dans la chicorée?
Non, j'évite ce genre d'association, mais je ne la renie pas, ça vient du Nord.
Ça vient de chez vous. Bonjour Eti, bienvenue dans l'émission...
Bonjour.
Alors vous avez grandi à Istanbul?
Voilà, j'ai grandi à Istanbul. Le petit déjeuner, c'est un moment important. Et qui est composé en fait de café turc, bien entendu, de pain grillé, de beurre, de confiture d'abricot, de confiture de cerise, qu'on trouve plus ici parce que... À l'intérieur, là-bas, il y a une sorte de mastic qui lui donne un goût incomparable, à mon goût. Et aussi de fromage de brebis. Alors ici, je le remplace par la feta, qui a pas grand-chose à voir avec la vraie, celle de là-bas. Et puis, il y a aussi un fromage de brebis qui s'appelle du cashkaval et qui est un brebis assez doux, mais vraiment très bon. Tout ça donc accompagné de pain grillé. Et c'est vraiment un moment festif, quoi.
Et Thie, vous habitez à Vincennes et vous avez conservé ces habitudes stambouliotes?
Exactement, j'ai conservé tout ça. Et jusqu'au mois de décembre dernier, j'avais une chambre d'hôte. Et mes clients riaient tous les matins parce que j'ai ma fameuse casserole de café, vous savez, cette petite casserole de couleur, la Tanaka, voilà, dans laquelle on fait le café. Donc j'en proposais, et puis les gens disaient non, oh là là, ça doit être trop fort. Et je veux bien goûter un peu. Et quand ils goûtaient, ils disaient mais pourquoi on dit que c'est fort? C'est pas fort, c'est délicieux. Et donc j'arrosais mes clients de café turc et de confiture d'abricot que je faisais moi-même, voilà. Et pour moi, contrairement à ce que disait le monsieur tout à l'heure, au contraire, ce petit déjeuner-là, j'adorais le partager avec mes clients parce que c'était vraiment un moment chaleureux d'échanges où les gens se lâchaient un peu, racontaient leur vie et tout. C'était magnifique.
Merci beaucoup, Iti. Voilà. Peut-être qu'un jour, on partagera un petit déjeuner stambouliote. J'en
avec
serai ravie. Merci beaucoup de nous avoir appelés.
Merci. Au revoir.
Le sucre, s'il te plaît, Christian.
Tu m'en mets 5 ou 6.
5 ou 6 sucres.
Demande 2, ça ira.
Voilà, 3.
Merci.
Qu'est-ce que tu as pris avec ça?
J'ai pris quelques biscottes ce matin, j'ai pas grand-chose.
T'as pris des biscottes?
Ça te fait pas plaisir?
Il a pris des biscottes.
Et alors?
Et alors? Biscottes. Et les croissants? Et les croissants faits à la maison? Tu te rends compte, madame, écoutez-moi, vous allez faire aujourd'hui, tout à l'heure, vous allez commencer des croissants pour demain matin, dimanche. Là, vous allez les mettre au four.
Oui.
L'odeur va emplir la cuisine. À partir de là, elle va ramper sous la porte de la chambre.
Oui.
Tu fais le mari qui dort, toi.
Le mari qui dort.
Le mari qui dort. Tu dors. Et là, votre mari va commencer à sentir l'odeur du croissant. Regardez son nez qui bouge. Il rêve. Une petite langue rose va apparaître. Oh, qu'il a faim. Et il se rend compte que c'est pas un rêve. Il ouvre un œil. Il ouvre le deuxième œil. Les croissants sont là, sourire à sa femme.
Des croissants, maman. Écoutez, c'est pas beau ça.
Alors, fini les biscottes, tous les dimanches, des croissants.
Propos...
Adieu biscottes, bonjour croissants.
Propos un peu daté de ce cher Michel Oliver en 1980 avec Christian Morin. Nathalie Hellal, le croissant, c'est le symbole du petit déjeuner dominical. Ça vient d'où d'ailleurs le croissant? Je sais qu'Hellal, paraît-il, ça veut dire croissant en arabe.
Oui, c'est vrai. Hellal,
mais ça vient d'où
croissant.
C'est quoi la vraie légende?
Alors, en fait, on a souvent raconté, mais c'est une légende
fausse, hein,
que c'était les boulangers de Vienne qui avaient sauvé la ville en prévenant qu'il y aurait une attaque des assaillants turcs en 1683 ou 1686 et qui auraient été autorisés à fabriquer donc en commémoration des croissants, parce que le croissant c'est le symbole, hein, évidemment de l'islam, donc sur le drapeau turc. Et donc on a raconté ça pendant très longtemps. Et puis en fait on s'est aperçu que dès le 5e siècle et jusqu'au Moyen-Âge, le croissant figurait sur les représentations de scènes d'Eucharistie. On a trouvé des seaux en bronze en forme de croissant qui datent de cette période. Donc il y a un caractère religieux, ça s'appelait alors le panem lunatum, le pain de lune. Mais bien sûr, c'était pas de la pâte feuilletée, c'était une sorte de pâte levée, briochée pendant très très longtemps. Et puis en 1837, à Paris, s'installe un boulanger viennois et qui commence à fabriquer des croissants dans la capitale, ça se démocratise et ce sont les boulangers français qui transforment cette pâte briochée en pâte feuilletée. Donc la forme reste, mais le goût change.
Le critère d'un très bon croissant, c'est quoi ?
Il doit bien casser, bien croustillant, la mie moelleuse et le côté croustillant craquant sur le dessus.
Laurent Guez ?
Je dis pas mieux. mais quand même, c'est un produit qui est un peu mythique, emblématique du petit déjeuner, notamment de la France, mais qui est assez peu consommé. Hein. Je voudrais juste redire les produits qui se vendent le matin sur un marché du petit déjeuner qui est dur à évaluer, ça dépend comment on compte. On va dire 10 milliards d'euros. Sur ce marché-là, le croissant, il est même pas mesurable.
C'est un plaisir dominical.
Oui, c'est ça. Mais en revanche, j'ai regardé quand même les produits qui étaient en hausse et ceux qui étaient en baisse. Ceux qui montent très très fort, c'est le café en dosette. C'est pas le café turc, c'est pas la Tanaka. C'est le café en dosette qui est en très forte croissance. Les jus de fruits baissent, mais les jus de fruits frais augmentent énormément. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement fort. Et puis, il y a un tout petit produit qui a une croissance mais exponentielle, c'est les graines. Donc les graines sans doute plutôt bio et que nos jeunes consomment beaucoup le matin maintenant en les mélangeant peut-être avec des céréales.
Les graines de chia par exemple, ou de chia, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Chia, voilà. Allez, il est temps de retrouver la petite philosophie de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice. Puisqu'on parle du petit déjeuner, vous nous proposez une petite philosophie du croissant.
Mais oui, elle est d'abord parce que j'adore les croissants. Voilà.
Ça se voit.
Merci, c'est dit. On vient d'en parler. Mais il me semble aussi qu'il y a un grand paradoxe du croissant. Il est donc, on l'a dit, l'un des symboles du petit déjeuner français, avec aussi les tartines de baguette et le café. Et pourtant, ses qualités nutritionnelles ne sont pas excellentes. Il est souvent jugé trop gras ou trop sucré. On dit que les glucides qu'il procure sont de maigre qualité. En telle sorte que manger des croissants tous les matins, ça ne serait pas vraiment recommandé. Et donc, tout se passe comme s'il y avait un peu un grand malentendu entre le croissant et le petit déjeuner, comme si le croissant était une erreur de casting.
Alors pourquoi, Thibault, le retrouve-t-on, ce fameux croissant, sur les tables de nos petits déjeuners?
Eh bien parce que précisément, quand nous petits déjeunons, on l'a dit depuis le début de cette émission, nous ne faisons pas que manger, nous ne faisons pas que satisfaire un besoin physiologique. Le petit déjeuner déjeuner s'impose comme ce qui vient rompre chaque matin le jeûne de la nuit. C'est donc un rituel à travers lequel nous recommençons chaque matin de vivre et donc d'exister. Et c'est sans doute à cause de cette dimension rituelle que les petits déjeuners sont aussi différenciés et identifiables en fonction des pays. Les œufs brouillés, le bacon pour les États-Unis, charcuterie et fromage en Allemagne, ou bien la bouillie de riz et les raviolis avec du thé noir en Chine. Le plaisir du petit déjeuner en général et le plaisir des croissants en particulier, c'est en fait un plaisir culturel à travers lequel chaque matin après le repos de la nuit dans lequel nous sommes seuls avec nous-mêmes, eh bien nous retrouvons le monde auquel nous appartenons et la société dans laquelle nous vivons.
Et c'est pour cela que lorsqu'il y a des croissants, bah c'est un peu la fête.
Ouais, le croissant nous rappelle, si l'on peut dire, à notre humanité. Et c'est à partir de ce plaisir-là que l'on peut même supposer que la simple odeur des croissants chauds peut nous rendre meilleurs. Alors c'est du moins ce que laisse penser le grand philosophe ruénogien qui nous a tristement quitté l'année dernière, en donnant à l'un de ses livres l'un des plus beaux titres, à mon avis, l'on puisse donner à un livre de philosophie. Le titre, c'est « L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine ». Voilà, alors il n'est pas vraiment question de croissant dans son livre, mais ce titre est là pour affirmer la conviction suivante. Quelque chose d'aussi léger, d'aussi apparemment superficiel ou anodin comme l'odeur des croissants chauds, peut avoir une influence sur notre bonté en général et sur notre jugement moral en particulier. Pourquoi ? Eh bien parce que pour Ruénogien, la morale n'a pas besoin de grands principes fondamentaux, elle n'a pas besoin d'être fondée sur des valeurs absolues. Mais pour être meilleur, il faut juste que chacun prenne le temps d'expliciter les raisons qu'il a de faire telle ou telle chose. Et c'est pour ça que la simple bonne odeur des croissants chauds du matin peut avoir une influence morale et nous pousser à faire le bien. Alors il n'y a pas que la pâte qui est feuilletée dans un croissant, hein, il y a aussi tout un feuilletage de significations et de raisons qui, à défaut de nourrir correctement le corps, nourrissent notre esprit et nous font voir dès le matin la vie du bon côté.
La petite philosophie de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice, et je recommande également l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine de Ruénogien, et c'est disponible au livre de poche. Les plaisirs du petit déjeuner, c'est notre menu du jour. The Black Keys, interprété Go.
Écoute, fais un effort, je voudrais que tu sois présentable ce soir.
Oui, bien sûr.
Bon, nous reprenons à la biscotte, hein, et au beurre, d'accord?
Oui.
Grand bien vous fasse.
N'aie pas peur d'appuyer, oui, c'est ça, c'est bien. Non, mais tu le fais exprès. Tu prends une autre biscotte.
Je n'y arriverai jamais.
Sur France Inter.
Les plaisirs du petit déjeuner, c'est notre menu du jour.
Julie, je vous ai dit que j'avais faim. Où est mon petit déjeuner?
Pas eu le temps, mais autre chose à faire.
Bon, alors écoutez, c'est le moment de vous y mettre. Je veux des œufs à la coque, des biscottes, de la confiture, du fromage de chèvre, une aile de poulet froid.
Dis donc, vous avez rien mangé hier?
Non, je me réservais pour aujourd'hui. Bon, alors écoutez, là c'est des paroles inutiles, maintenant je veux des œufs.
Je vous signale que j'ai plus de poulet.
Oh, ne me racontez pas d'histoire, je connais la maison. Et pas d'économie de mauvais goût. Ne regardez pas la quantité.
Oh, vous alors?
Je vous attends sous la vergole.
Petit déjeuner très salé pour Belmondo dans À double tour de Chabrol. On s'intéresse au plaisir du petit déjeuner avec la complicité du Parisien Week-end. Sucré ou salé, le petit déjeuner divise l'Europe du Nord et du Sud. Christian Grataloup, je rappelle que vous êtes géo-historien. C'est une division, le sucré salé, entre le Nord et le Sud?
Oui, et c'est aussi une question de quantité. Au Nord, on mange beaucoup plus au petit déjeuner et au Sud, on mange beaucoup moins. Mais ça, ça dépend du repas du soir, qui est très copieux et tardif en Espagne, en Italie, alors qu'il est au contraire vers 18h dans l'Europe du Nord. Donc le petit déjeuner, dans ce cas-là, est plus copieux parce qu'on a faim le matin, au moment de la rupture du jeûne, hein, de déjeuner, c'est ce que ça veut dire, comme breakfast. Et à ce moment-là, on a un repas qui va nous permettre de tenir largement jusqu'à midi, midi et demi. Mais c'est pas le cas ailleurs et c'est lié au fait que longtemps il y a eu deux déjeuners, un premier et un deuxième, un petit et un grand, qui ont le grand a finalement fusionné avec le dîner qui se faisait à midi hein, jusqu'au début du XXe siècle. Et vous avez là un repas plus copieux qui fait que le petit déjeuner du Sud est resté sucré, enfin est devenu largement sucré et beaucoup moins copieux que celui du Nord, dont le breakfast britannique est un peu le type et dans lequel il y a de la charcuterie, du hareng, enfin des tas de choses qui ne sont pas du tout admis dans les déjeuners du Sud.
Nathalie Hellal, journaliste culinaire.
Aujourd'hui, plus que jamais, on associe sucré et salé avec le brunch. Et d'ailleurs, le petit déjeuner se confond vraiment avec le brunch. Ça permet de donner à la fois aux particuliers et aux chefs une vraie liberté créative. On trouve même dans certains palaces, paraît-il, des makis et des sushis qui côtoient des panières de viennoiserie.
Laurent Guest dans le Parisien Week-end, quelques petits déjeuners du monde entier, plutôt salés.
Oui, parce que si la ligne de partage en Europe, c'est presque du moitié-moitié, à l'échelle mondiale, il me semble que le petit déjeuner est très salé. Et même, en écoutant tout à l'heure la chronique de Thibault, je me disais que ça paraissait universel, l'idée de vouloir démarrer la journée en douceur. Mais quand on regarde, il faut quand même regarder les choses en face. On mange non seulement salé, mais on mange piquant dans beaucoup d'endroits. Au Mexique, des haricots rouges au piment. En Asie, très très pimenté également, très relevé. Au Japon, il y a un produit dont raffolent les Japonais le matin, c'est ce qu'on appelle le natto, les haricots de soja fermentés, qui ont un goût d'ammoniac à peine soutenable pour un palais occidental. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé.
Oui, on a essayé avec Thierry Lhermitte, qui collabore, vous savez, à l'émission. On a essayé.
Le natto,
ouais. Et c'est pas bon du
tout. Le natto de bonne humeur, c'est pourtant assez fréquent. Donc, on a fait un petit tour du monde où on voit que très souvent, on est plutôt salé, comme il a été dit, du poisson fumé, etc. Et souvent, on n'a pas un régime spécifique pour le petit déjeuner. Là, en France, on parle d'un produit qui est le croissant, par exemple, qui est identitaire du petit déj. Mais dans beaucoup d'endroits, on mange exactement pareil que les autres repas, peut-être accommodés différemment, mais ce sont les mêmes ingrédients, le curry, etc. Et souvent, des restes de la veille qui sont réchauffés le matin pour faire office de petit déj.
Bonjour Laurent Chevalier, docteur Laurent Chevalier.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste en duplex de Montpellier, l'un des experts de notre émission. Vous préconisez plutôt un petit déjeuner sucré ou salé d'un point de vue strictement nutritionnel et non pas gourmand?
Alors, écoutez, c'est tout à fait logique, on cherche plutôt du salé, pour une raison assez simple. Au petit matin, vous avez le cortisol qui est sécrété, c'est une hormone qui est dite hyperglycémiante, c'est-à-dire qui fait monter la glycémie dans le sang. Donc ça explique d'ailleurs pourquoi les enfants n'ont pas forcément faim, mais consommer plutôt du salé, mais pas trop salé, ça a du sens. Parallèlement, il faut faire... Donc si vous voulez, les horaires du petit déjeuner aujourd'hui sont des horaires sociaux, qui correspondent pas du tout au rythme biologique. Autrefois, dans la paysannerie, eh bien, on cassait la croûte vers 10h, même si on prenait quelque chose tôt le matin. Ensuite, il faut voir une problématique que l'on a aujourd'hui avec le petit déjeuner. C'est le problème de la déshydratation. C'est-à-dire que les gens se déshydratent la nuit, l'été il fait chaud, mais l'hiver les intérieurs sont surchauffés. Donc les gens sont déshydratés. Et donc ce qu'ils devraient commencer par faire, c'est boire un grand verre d'eau. Or là, on prend du thé ou du café qui sont eux-mêmes diurétiques. Donc du coup, les gens sont fatigués. Ils sont fatigués dès le matin. Donc quand on s'en commence par boire de l'eau, ça a vraiment du sens. Ensuite, il est essentiel aussi pour les enfants d'avoir des protéines de bonne valeur biologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut prendre, par exemple, eh bien, des œufs, ça a du sens. Du lait aussi, ça peut avoir du sens. Puisque les enfants, ils grandissent la nuit. On grandit au maximum entre 2h et 4h du matin. Et on n'a pas de stock de protéines. Donc cet apport en protéines est tout à fait important. Et d'autre part, les dérives que l'on a aujourd'hui, c'est les dérives avec les céréales du petit déjeuner. C'est-à-dire que on gobe les aliments, ce qui est tout à fait problématique, et il faut mieux, bien entendu, mâcher.
Ces céréales du petit-déjeuner, Laurent Chevalier, sont souvent des friandises. Elles sont tellement sucrées, tous ces cornflakes, ces céréales fourrées au chocolat, etc. Ce sont des friandises que l'on donne aux enfants le matin.
Mais ça n'a pas de sens. Mmh. C'est-à-dire qu'on a voulu nous faire croire que c'est des céréales, c'est des céréales extrudées, qui sont effectivement extrêmement sucrés, qui n'ont rien à voir avec le porridge anglais autrefois, où on avait des graines, la soupe, etc. Donc ça n'a strictement rien à voir. Donc nous, nous sommes préoccupés, et beaucoup de personnes, et notamment d'enfants, sont fatigués le matin par un petit déjeuner qui n'est pas adapté.
Docteur Chevalier, une question et une réponse rapide, une question de Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, moi j'ai grandi avec l'idée que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée. Aujourd'hui, on entend dire qu'on peut sauter le petit déjeuner.
Avec le jeûne alterné notamment.
Voilà, donc question, est-ce que c'est bien ou mal de sauter un petit déjeuner ou de ne pas petit déjeuner le matin?
Et une réponse rapide du docteur Chevalier.
Oui, je crois que l'idéal, entre guillemets, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Nathalie Lal, le brunch. Donc le brunch, ça peut avoir du sens, malheureusement, socialement, on peut pas suivre et on a une inadaptation des rythmes biologiques par rapport aux rythmes sociaux.
Mais est-ce que c'est si grave que ça de sauter le petit déjeuner ?
Il faut mieux prendre un petit déjeuner, peut-être un petit déjeuner léger, qui peut être par exemple fait avec un fruit pressé et beaucoup d'eau. Un lait chocolaté, un peu de pain complet aux noix, un peu de fromage ou un œuf, une compote, tout ça, ça a du sens. On n'a pas besoin de le prendre en grande quantité, mais il faut mieux, effectivement, prendre un petit déjeuner malgré tout.
À titre personnel, moi, je ne prends pas de petit déjeuner en semaine, mais le week-end, je me lâche.
Vous êtes très enfant,
je me fais plaisir.
Tout.
Merci beaucoup, docteur Laurent Chevalier, d'être intervenu. Bonjour, Élise. On termine cette émission avec vous. D'où nous appelez-nous, Élise? Bérénice,
oui,
pardon. C'est Bérénice,
voilà,
ou Élise?
C'est ma fille Bérénice qui a 9 ans et qui veut vous parler.
Ah, ben très, très bien. Bonjour Bérénice.
Bonjour.
Bienvenue. Tu as 9 ans, je crois. Oui. Alors, le petit déjeuner pour toi, ça représente quoi? C'est un plaisir?
Bah oui, c'est un peu sacré parce que quand j'étais petite, dès que je me réveillais, j'allais voir s'il y avait pas déjà les petits déjeuners.
Et c'est quoi pour toi le petit déjeuner idéal? Celui que tu préfères, celui qui est à ta faveur. Tu aimes quoi comme petit déjeuner?
Moi j'aime bien un lait au chocolat avec une tartine de pâte à tartiner et du jus de fruits.
Bon, bah écoute, ça me paraît pas trop mal. Merci Bérénice d'avoir témoigné sur France Inter et Sophie qui nous dit que le meilleur repas de la journée, quand nous sommes en vacances chez mes parents, c'est chez les parents justement. Elle est impatiente de prendre son petit déjeuner avec toute la famille et elle passe une heure à table avec des tartines beurrées et de la confiture. Vive les vacances et les longs petits déjeuners. Christian Grataloup, on termine avec vous. On a une petite minute à la fin de votre livre, vous vous demandez si on assiste à la fin du petit déjeuner?
Oui, parce que il a tendance à se disperser, comme on vient de voir plein d'injonctions, à se mondialiser de différentes façons avec introduction, par exemple, de soupe chinoise ou de produits japonais, et avec des pratiques de rythme qui sont différentes, dont le brunch, qui est une invention au départ qui a rien à voir avec le petit déjeuner, parce que c'est l'équivalent dans la société new-yorkaise de la soupe à l'oignon des noceurs parisiens. C'était le repas qu'on prenait à la fin d'une longue nuit pas de débauche forcément, mais enfin de distraction, et on prenait un repas qui était à la fois du matin et du soir. Voilà.
Merci beaucoup.
Donc aujourd'hui, effectivement, c'est plus tout à fait le même rythme codifié et ça se voit très bien dans les générations.
Merci beaucoup Christian Grataloup, Thierry Bourcy, Nathalie Hélal, toute la bibliographie est disponible sur l'appli France Inter et sur le site franceinter.fr. Merci à tous d'être venus. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Africain du nord au sud,
et je suis africain. Dedans comme dehors, et je suis africain. Et je n'ai pas le rythme dans la peau, et je suis africain. Un albinos afro.
Africa, yeah. Africa, Africa, j'aime.